France Inter.
Auteur, compositeur, interprète et artiste pluridisciplinaire, Albin de la Simone a sorti plusieurs albums, exposé ses dessins dans des galeries, fait des films fantômes, conçu des produits dérivés Louis de Funès pour la Cinémathèque et même des timbres pour la Poste. Il fut claviériste, bassiste, arrangeur ou réalisateur pour un grand nombre d'artistes comme Pomme, Carla Bruni, Miossec, Vanessa Paradis, Angélique Kidjo, Arthur Ashe, Alain Souchon, Mathieu Bogartz, Salif Keita, Bastien Lallemand, je vais faire une crise cardiaque, Jeanne Chéral et même Iggy Pop, ce qui donne deux phrases d'affilée avec la locution et même. Que sais-je d'autre à son sujet ? Il aime les couleurs vives, a mis du temps à oser danser et s'est tiré dans la tête avec un pistolet à plomb qu'il croyait vide. Son cœur est tendre, fantaisiste et mélancolique, d'où tiens-je mes sources de ces deux actualités. La sortie le 7 mars d'un nouvel album intitulé « Toi là-bas », composé de réinterprétations de plusieurs titres de son répertoire, d'un inédit et de reprises de Michel Legrand, Françoise Hardy, Hallyday ou Adamo, et la publication le 12 mars prochain chez Actes Sud, de son livre illustré par ses soins et autobiographique « Mes battements » sur son adolescence picarde. Une tournée et une exposition suivront. Info en fin d'émission. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Albin de la Simone.
Il y a une diction impressionnante.
Écoutez, je suis épuisée.
Ouais, je vois ça.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Enthousiasmé, mais pas deux choses. Une chose, deux choses que j'ai adorées. J'ai vu La Zone d'intérêt, le film La Zone d'intérêt.
De Jonathan Glazer, d'après Martin Ellis.
Qui raconte la vie d'une famille dans une maison
collée
à Auschwitz. Qui est glaçant, terrible et fabuleusement puissant, je trouve. Et deux jours avant, j'ai vu un des plus beaux concerts de ma vie. Alors ça compte vachement dans ma vie. Mmh. J'ai vu Michael Kiwanuka au Zénith.
Oh, magnifique.
Alors dans la phrase que je viens de dire, il y a au Zénith. A priori, c'est pas l'endroit où je rêve de voir des concerts. Le son était le plus beau du monde. Il y avait 11 musiciens. C'était tout pour la musique. Il y avait 6500 personnes pour écouter Michael Kiwanuka. C'est un des plus beaux trucs que j'ai vus. Ça m'a touché partout.
D'accord, donc deux choses très émouvantes.
Ouais.
Alors, vous aimez les couleurs vives, mais vous n'en portez pas aujourd'hui. Vous avez un pull gris.
Oui, alors j'en portais ce matin.
Ah, quelles étaient-elles ?
Quelles étaient-elles ? Un pantalon rouge.
Ah oui, voilà, je suis rassurée. Est-ce que ça vous ferait bizarre d'être un jour publié par Albin Michel, Albin de la Simone ?
Je crois que mon prénom... Ah, vous avez vachement bossé.
Merci d'avoir ri à cette blague, parce que je m'attendais à un grand moment de solitude.
Pour la prochaine. Je m'appelle Albin... À cause ou grâce à Albin Michel.
C'est pas vrai. Oui.
Et en plus, ma mère s'appelle Michel.
Non mais attendez, vous voulez dire que je suis devant ?
Devine ?
Oui. Et que je vois dans le passé ?
Ouais, c'est ça. Je crois que les livres traînaient sur la table et ma mère a trouvé que Albin était un chouette prénom. Après, il a été illustré différemment, ça a été le nom de Michel Serrault dans La Cage aux Folles. Qui est surnommé Zaza, mais dont le prénom est Albin. Et quand j'entends l'acteur Ugo Tognazzi dire « Albin !» comme ça, ça me fait toujours bizarre.
Attendez, j'ai une vision. 1789, la Révolution française.
Quoi ?
Je vais ouvrir un cabinet, on pourra venir me consulter pour savoir des choses
du
passé.
Ah, vous venez de deviner la Révolution française ? Oui. Mais c'est dément, c'est génial.
Vous êtes artiste associé au FRAC Picardie ?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, artiste associé ? Je demande ça à chaque fois.
D'habitude, c'est plutôt FRAC qu'on demande d'expliquer.
Mais vous pouvez expliquer aussi FRAC, et j'aime bien la façon dont vous le dites.
Alors, FRAC, ça veut dire Fonds Régional d'Art Contemporain. Le FRAC Picardie est spécialement dédié au dessin, et au dessin contemporain, au dessin. Et ils ont un fonds fabuleux qui a été assemblé depuis 30 ans par l'ancien directeur et le nouveau directeur. Et ils m'ont proposé d'être leur artiste associé, c'est-à-dire que pendant un an, là c'était un genre de deal d'un an, pendant un an, on fait plein de trucs ensemble. Donc je suis allé faire des choses dans un musée, dans une ville à côté d'Amiens, je suis allé faire des rencontres, j'ai fait dessiner des gens dans les rues d'Amiens, dessiner la cathédrale, plein de petites missions comme ça, sympa, j'ai dessiné leur carte de vœux, j'ai créé un bloc de papier à dessin, mon bloc de rêve pour dessiner, que j'ai recouvert du papier du papier peint de la chambre de ma sœur de quand j'étais petit, et ils l'ont fabriqué à 1000 exemplaires et pour le distribuer à leur public.
Et on peut le voir d'ailleurs dans votre livre,
on peut voir le papier peint, ouais. Et ils organisent une exposition de mon travail. En fait, surtout, ça m'a vachement donné envie de dessiner et de raconter mon enfance, parce que je viens de cette région, et tout ça, mais on en parlera. Mais
ça, évidemment.
Donc, leur main tendue, leur perche tendue, m'a vraiment allumé quelque chose, qui est le désir de parler de mon enfance dans cette région et mon adolescence.
Êtes-vous toujours artiste associé au Théâtre National de Bretagne sous la direction d'Arthur Noziciel ?
Je le suis et j'y ai répété la tournée que je m'apprête à jouer vendredi à côté de Strasbourg, que je commence vendredi, j'ai répété au TNB à Rennes et au 104 dont j'ai été longtemps artiste associé aussi.
Et ben, j'ai beaucoup d'estime pour Arthur Noziciel qui a créé un Julius César en ce moment à Sceaux.
Je ne l'ai pas vu, mais j'ai beaucoup d'amitié même pour Arthur Noziciel.
Ah oui, il a l'air d'être un chic type. En 2018, vous avez adapté avec Valérie Mregène le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns au TNB. Quel animal êtes-vous ?
Ah non, j'étais pas sur scène.
Non, mais quel animal êtes-vous dans la vie ?
Ah, moi dans la vie ?
Oui.
Waouh ! Oh, la question.
Ah, vous avez cru que c'était...
Est-ce que pour le temps que je réfléchisse, vous pouvez parler de vous ? Vous, quel animal êtes-vous ?
Bah, moi, c'est un raton laveur et je suis très déçue parce que j'imaginais une panthère flamboyante. Ah, oui. Et en fait, je sais que c'est un raton laveur qui prend des anxiolytiques.
On sait comment ça ?
Inquiet, toujours inquiet, comme ça.
Ah oui, d'accord. Mais on le sait comment ?
Je sais pas, on imagine. Alors, celui que vous aimeriez être ?
Alors, moi, je suis, en tout cas, en truc chinois, je suis chien de métal.
Oh waouh, ouais. C'est bon, vous avez gagné. Ouais. Chien de métal.
Chien de métal. Metal dog en anglais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Albin de la Simone, vous publiez un livre illustré le 12 mars prochain, Mes battements chez Actes Sud. Et vos battements, c'est ce qui fait vibrer et qui rythme votre vie. Il y a beaucoup de choses qui ont ce rôle.
Oui. Ouais, ma vie est constituée de beaucoup de battements différents.
Vous êtes d'un naturel enthousiasme ? Enthousiaste ?
Pas spécialement, mais plutôt motivé et plutôt actif. Ouais.
Et alors, la motivation, c'est toujours intéressant d'en parler. Est-ce que vous arrivez à la maintenir sur le long terme ? Parce qu'il est facile d'en avoir une éphémère.
Ouais, je suis motivé. Je travaille sur des projets qui sont quand même assez longs en général à mettre en œuvre et puis après à développer un disque quand il sort. Après, on part en tournée et tout ça. Heureusement que oui, ma motivation ne s'arrête pas en cours de route parce que la tournée, ça peut être très dur si on n'est plus motivé.
Vous allez faire une tournée dessinée, mais vous allez aussi avoir des expositions de vos dessins en juin.
Vous venez de dire vous allez faire une tournée dessinée. Je suis pas sûr que ce soit clair.
Mais, ah, c'est vrai.
Qu'est-ce que ça veut dire une tournée dessinée ? Moi, je voudrais éclaircir ce point.
Alors, éclaircissez-le, mais avec grande voix.
Non, c'est parce que je vais faire des concerts, une tournée de concerts, parce que je suis chanteur.
Oui.
Mais je vais dessiner sur scène.
Oui.
Mais et c'est pas habituel, en fait.
Non.
Ça se fait pas trop. Donc, je voulais expliquer ce que je vais faire.
Mais faites-le,
je vais dessiner les fonds, les décors de mes chansons, par exemple. Entre deux chansons, je vais dessiner la maison dans laquelle j'ai grandi. Puis je vais chanter une chanson.
Ah oui,
qui
mais
se passe
pendant que
maison.
Vous chantez.
Eh bien, si.
Oh
je vais aussi. Oui, mais alors je peux pas jouer du piano. Par contre, donc, j'essaye d'utiliser toutes les possibilités entre le dessin, le fait de jouer de la musique, de chanter et de raconter des trucs. Et voilà, c'est un concert qui mêle un peu tout ça. Voilà, je vous laisse reprendre.
Ambitieux et...
Ah oui, par contre, ça va être complètement raté.
Non, arrêtez de vous vanter, pas du tout. Le dessin, parlons du dessin d'abord. Oui. Vous dessinez depuis petit.
Oui.
Vous avez eu un diplôme d'art plastique en Belgique, mais vous avez arrêté de vos 18 ans à vos 45 ans.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que je me trouvais nul, que je gâchais toujours mes dessins au dernier moment. Et puis aussi parce que je suis devenu musicien et que la musique a pris toute la place et a occuper le rôle de vecteur d'expression, enfin de média.
Et vous aviez déjà exposé plusieurs fois vos dessins, vos carnets de tournée. Vous avez été invité d'honneur aussi au musée d'Orsay pour une collaboration autour de l'exposition Degas Manet.
Ouais, ça c'était pas en tant que dessinateur. Hein.
Alors, c'était
non,
en tant que
je ne suis pas exposé au musée d'Orsay.
Ah bon
même. Non, non, non.
Oh, je vous imaginais dessiner sur les.
Non, c'était en tant que chanteur et musicien. J'y ai donné mes concerts et en fait le musée m'a présenté cette exposition Degas Manet qui m'a inspiré une chanson. J'ai écrit une chanson à partir de deux tableaux que j'ai vus dans cette exposition et chanson qui est sur mon dernier disque. Alors non, ça c'était un Degas et un Manet, et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Mireille 1970, au sujet d'une femme qui vient d'avorter. Et la pochette, l'arrière de la pochette, c'est un cerf royal peint par Rosa Bonheur, que j'ai effectivement découvert aussi au Musée d'Orsay.
D'accord, donc en fait, mais j'avais raison sur le lieu, mais tort sur tout le reste.
Non mais ça m'a vachement inspiré d'avoir un pied là-dedans, j'y allais tous les lundis, et quand c'était fermé, donc le Musée d'Orsay vide, c'est assez magique.
Est-ce qu'écrire, c'est plus douloureux que de dessiner ?
Non, alors... J'ai l'écriture de chansons assez douloureuse parce que c'est un travail d'épuration, d'enlevage de tout ce qui... On enlève l'eau pour laisser juste la substance. Donc c'est un boulot de concentration et de choix. C'est hyper technique. Et c'est très angoissant pour moi. Quand j'écris une chanson, je ne pense qu'à ça. Je marche dans la rue, je pense à ça. Je dors, je pense à ça. Jusqu'à ce que j'ai trouvé les bons mots et tout ça. Je parle d'écriture du texte. La musique après vient sans doute souvent un peu plus facilement. Ce qui est génial, enfin pour moi dans ma vie là, c'est que j'ai découvert que dessiner, je m'en fous complètement. Enfin, je veux dire, c'est positif ce que je dis. Je dessine avec légèreté. Je peux faire autre chose en même temps. Je peux écouter la radio. Je peux vous écouter parler. Je peux écouter de la musique. Je peux discuter. Je peux en dessinant. Quand j'écris des textes aussi, les textes qu'il y a dans mon livre qui racontent des histoires, je suis aussi dans un processus où je ne dois pas enlever des choses, je dois en rajouter. Et rajouter des choses, c'est beaucoup plus facile qu'en enlever, je trouve. Donc, je fais ça avec une grande légèreté. Donc, ce livre, pour moi, c'est la partie très légère de ma vie, même si j'y dis des choses tout aussi lourdes et tout aussi importantes, quoi.
Vous dessinez parfois à la plume. Et il y a une notion d'improvisation qu'on retrouve aussi dans le jazz dont vous venez. Et vous avez commencé par explorer le jazz en suivant les traces de votre père,
ouais.
Jazzman amateur, clarinettiste au Club Med.
Absolument. Enfin, au Club Med pendant les vacances.
Oui, j'imagine.
C'est génial, ça nous payait des vacances, gratos. On n'avait pas du tout d'argent
dans
ma famille.
Vous le décrivez dans le livre, il vous a donné une vie de château sans un centime.
C'est ça. C'est ça. Il était, donc, on s'appelle De La Simone, donc la particule, il y a tout un tas de clichés qui vont avec. Et moi, j'ai eu que les clichés, enfin, que l'apparence. Mais ce qui est marrant, donc on n'avait vraiment pas d'argent, mais mon père a réussi à, voilà, par le fait qu'il jouait de la musique, à nous emmener en vacances, des vacances super. Ça, c'est le côté très positif. Il y a des côtés moins marrants. Par exemple, il avait racheté le château du village en viager. Le château était un restaurant. Ils s'étaient associés avec des gens du village pour racheter le château. Comme ça, ils allaient faire fortune. Parce que les gens étaient très malades, les vendeurs et tout. Ils ont miraculeusement guéri. Ils ont vécu 20 ans. Ruine pour tout le monde. Mais on avait l'air d'avoir un château. Du coup, on n'y vivait pas, mais on faisait partie des propriétaires du château. Ça faisait une image quand même. Avec De La Simone, ça il réparait des voitures anciennes, il adorait ça, des vieilles, vieilles bagnoles, des Amilcar ou ce genre de trucs, des très vieilles voitures, et il les réparait, et il les revendait plus cher. Ça permettait de mettre un peu d'huile dans les rouages. Mais du coup, pour tout le monde, il y avait toujours une espèce de voiture de collection devant la maison, dont on avait l'air d'être propriétaire. Voilà, enfin, c'est des histoires de décalage. Mon père était hyper malin pour avoir l'air d'un aristocrate. Voilà, ce qui ne m'a pas, moi, en vivant à la campagne, en allant au collège à la campagne, je peux dire que je l'ai un peu payé.
Alors, en tout cas, vous racontez en effet que lorsque le bus de ramassage scolaire venait, c'était pour vous des abysses d'angoisse, on peut dire. Et vous vous êtes fait casser les doigts par jalousie à coups de Doc Martens.
C'est dans mon livre, ça ? Je l'ai pas raconté. Je l'ai raconté
dans... Oui. J'ai pas pu l'inventer.
Bah oui, c'est drôle, je me souviens plus que je l'ai raconté dans le livre.
Justement parce que des garçons étaient jaloux de vos talents musicaux qui vous permettaient de séduire les filles.
Ouais, ça c'est mon interprétation la plus psychologique. Si j'essaye d'expliquer le truc...
Ça a l'air assez logique.
Je me suis surtout fait casser la gueule par des connards qui étaient très violents. Et moi j'avais l'air un peu punk à l'époque. Et puis toujours cette espèce de culture et de particules, machin. Et eux, ça les rendait agressifs. Il y avait ça, mais c'est vrai que la salle de piano où j'allais jouer, elle était sous l'internat des filles. Donc, je plaisais aux filles du fait que je jouais du piano. Moi, je m'en rendais pas du tout compte, mais ça créait aussi des décalages, quoi.
God save the queen. She ain't no good.
God Save the Queen des Sex Pistols, c'est ce que vous écoutiez adolescent, Albin de la Simone, oui. Avec Crass, Peel, The Damned, The Stranglers. Vous étiez habillé comme The Cure ou Indochine, avec des chaînes, dont des chaînes trouvées dans votre maison, par exemple des chaînes de baignoire, de ouais. Bouchons de baignoire.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que le mercredi, j'avais la maison pour moi tout seul, et je faisais des expériences, et je piquais les fringues de ma sœur et tout ça, et j'essayais tout ce qui... Je cherchais des chaînes, des clous, des machins, des épingles à nourrice, donc je vidais les boîtes de maquillage, de bijoux, couture. De couture, de tout, et c'est allé jusqu'à piquer ouais, la chaîne du lavabo, enfin de la baignoire, et la mettre autour du cou avec le bouchon caché dans la poche. Mais tout ça pour aller parader dans un village de 150 habitants, dans lequel il n'y avait personne.
Et parlons cheveux,
oui.
Car plusieurs choses se sont produites sur votre tête à cette époque.
Ils ont changé beaucoup de couleurs, j'ai fait vachement d'expériences.
Un Klaus Nomi aussi.
J'ai eu la coupe de Klaus Nomi, mais alors avec pas la tête de Klaus Nomi, donc ça n'allait pas. En plus, j'étais bicolore, parce que je m'étais fait teindre les cheveux je voulais les avoir couleur betterave.
D'accord.
Donc je les ai eus, couleur betterave, mais comme j'ai les cheveux noirs, il fallait d'abord passer par le blond platine.
Bien sûr.
J'ai eu les cheveux couleur betterave, je suis allé à la piscine de Corbie, un village à oui. côté de chez moi, le lendemain, et j'ai eu les cheveux orange Annie Lennox, orange carotte, parce que la betterave devient orange au contact du chlore.
Eh bien, nous le saurons.
Voilà, ne faites pas cette erreur. Et après, c'est devenu blanc, et après, ça a repoussé. J'avais les cheveux bicolores et j'ai eu la coiffure de Klaus Nomi. Ouais.
Mais bah, quelle vie avez-vous mené,
oui. Oh, ça, c'était, j'étais en seconde.
Alors, tout de même, j'aimerais que vous racontiez l'anecdote avec le pistolet à plomb.
Bah, c'est aussi un mercredi après-midi. Ça,
quand vous étiez punk.
Non, ça, c'est avant. J'avais 12 ans. Ouais.
Pré-punk.
12-13 ans. Ouais, très pré-punk. En fait, il y avait un pistolet à plomb à la maison et mon père m'avait expliqué quand j'étais petit, ce qui m'intéressait pas du tout, comment on chargeait en pliant le canon. C'est comme les carabines à plomb dans les fêtes foraines. Et puis on tirait des cibles un peu, mais moi ça m'intéressait pas. Sauf que quand j'ai eu 12 ans et que j'ai eu les mercredis toute la journée tranquille, il m'est arrivé de planter une bêche dans le jardin, de punaiser une cible dessus et de tirer au pistolet à plomb. Et notamment quand Julien et Elsa, qui étaient des petits de 3-4 ans de moins que moi, arrivaient. Et moi, je leur expliquais que bah, j'ai 12 ans, quoi.
Ouais.
Et je suis pas que élève, je suis aussi...
Cow-boy.
Cow-boy, tueur en série, tout ce qu'on veut, quoi.
Ouais.
Et je leur faisais des démonstrations, je tirais à l'envers, comme la double page dans Lucky Luke. Je sais pas si vous voyez, je tirais entre les jambes, par derrière et tout ça. Et un jour, je leur ai dit, je peux aussi faire ça. Et j'ai mis le canon sur ma tempe. Et j'ai tiré en étant... Il n'y avait pas de plomb. Mais quand même, ça fait vachement mal. Je me suis dit que c'était l'air comprimé. L'air comprimé, ça... Bon, voilà. Jusqu'à quand même sentir le sol un peu tourner. Les mômes sont partis. Moi, je me suis assis dans un fauteuil. J'avais le flingue à la main, un filet de sang sur la joue et je suis tombé dans les pommes. Et ma mère est rentrée. Je ne sais pas si vous imaginez
l'horreur. Oui.
Son cri m'a réveillé. Je lui ai dit non, mais t'inquiète pas, c'est juste l'air comprimé qui a dû me faire mal, mais ça fait vachement mal et tout. Elle m'a dit ouais, l'air comprimé, allez hop, on fonce à l'hôpital et on est arrivé à l'hôpital. Et la première radio de profil, elle montrait, donc imaginez un crâne de profil, un plomb en plein milieu. Bon, donc déjà, il y avait un plomb que j'avais, je sais pas. Et il était en plein milieu. Et en fait, quand on a vu la radio suivante qui était de face, le plomb était écrasé, on l'a vu écrasé contre le crâne. Il s'était écrasé contre le crâne et il avait ripé, il avait glissé sur le crâne de quelques centimètres, donc il n'était pas en face du trou.
Vous avez un crâne par balle.
J'ai un crâne par balle. Et attendez, pardon. Le médecin qui me l'a enlevé à la pince à épiler m'a dit « Bon, bah, tu comprendras qu'on ne t'anesthésiera pas, hein, parce que c'est trop sensible. » Ah bon, d'accord. Et à la fin, il m'a dit « Bon... Heureusement que t'as tiré là, parce que 2 cm à côté, c'est la tempe, et là, c'est du papier à cigarette.
Ah oui.
Voilà.
Est-ce que ça a modifié votre rapport à l'existence ?
Non, mais aux armes à feu.
Oui,
clairement.
Bien.
Je pense souvent à cette idée selon laquelle la plupart des accidents d'armes à feu ont lieu avec des armes non chargées.
Oh là là.
Qu'on croit non chargé.
Oui, là j'ai des anecdotes de tournage de films qui me reviennent en mémoire.
Bah, oui, récentes.
Oui.
Et moi j'en ai dans ma famille aussi des histoires comme ça, de pièces de théâtre avec arme à feu chargée, ouais, et est mort.
Un acteur qui a tiré sur une femme en étant persuadé qu'il n'y avait rien et il l'a tué.
Oui, ça c'est Alec Baldwin.
Oui, exactement. Ouais, c'est ça, je crois, ouais. Alors vous avez d'autres talents, Albin de la Simone, fort heureusement, celui d'attraper les mouches à la volée.
Ah oui, ça c'est important, j'aurais aimé qu'on me consacre une émission entière
d'ailleurs.
Bah écoutez,
parlons de ça, il nous reste une 30 minutes à peu près.
Bah, c'est vachement intéressant, ouais.
Vous le faites toujours ?
Bah, le mercredi après-midi, quand
mais
j'avais pas d'arme à feu.
Mais écoutez, c'est pas possible.
C'est génial le mercredi après-midi. Non, je m'emmerdais pas mal quand même et j'ai appris à attraper les mouches à la volée. Je peux en attraper une, par exemple, la mettre dans ma main, la garder dans ma main et en attraper une autre et ajouter une mouche dans ma main.
Et après, vous jonglez avec les mouches.
Ouais, je peux jongler
l'homme
avec les mouches.
L'homme qui murmure à l'oreille des mouches.
Ça ne sert à rien.
Bah non, mais c'est formidable.
Bah oui et non. C'est impressionnant.
Oui.
Et mais ça sert à rien.
Et quelle est l'astuce ?
Il faut l'attraper. En vol, pas là où elle est, il faut l'attraper là où elle sera. Donc il faut avoir un petit sens de la psychologie de la mouche.
Ah bah oui, ouais. Vous êtes presque Confucius.
C'est ça, décidément.
Alors, vous provoquez aussi la fureur des fermiers en Picardie, puisque ce que vous adoriez, c'était après la moisson, la paille.
La paille, bah ouais. Mais tous les gens qui ont grandi à la campagne ont joué dans la paille. C'est génial. On raconte même... Parce que la paille, donc c'est des ballots. À l'époque, ils étaient cubiques, parallélépipédiques. Ils étaient entassés, ça faisait des structures, ça faisait des châteaux. On faisait des souterrains, des couloirs et tout ça. On m'a raconté qu'un jour, je suis rentré de jouer dans la paille avec mes copains et mes copines, avec le slip à l'envers.
Écoutez, vous avez une vie absolument dissolue.
Mais j'étais petit. Mais je trouve ça marrant.
Oui, mais et vous n'avez évidemment aucun souvenir de ce qui a précédé.
Évidemment.
Il ne vaut mieux pas.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Albin de la Simone, vous avez beaucoup foulé les rues d'Amiens. Vous connaissez par cœur la Maison de la Culture inaugurée en 1966 par Malraux.
Exactement.
Et votre première expérience de musique contemporaine eut lieu dans la cathédrale.
Ouais, c'est par hasard, c'est vrai. Je suis rentré dans la cathédrale un jour, parce que la cathédrale, c'est quand même un truc, quand on habite Amiens, quand on passe devant, on peut rentrer, et ça m'arrivait souvent de rentrer, même de monter dans une des tours, il y a une des tours où on pouvait monter, puis on avait une vue, enfin c'est assez dingue. Et il faut dire que c'est la plus grande d'Europe. On peut mettre Notre-Dame de Paris dans la cathédrale d'Amiens,
oh.
Il paraît. Ouais. Non, elle est balèze, d'aucuns disent, d'aucuns pensent en tout cas. Et un jour, en rentrant, juste pour le plaisir de rentrer, quand j'étais ado, je suis tombé sur un mec torse nu, qui chantait avec une voix lyrique, mais de la musique super étrange. Il jouait des gongs en même temps, plein de gongs dans l'acoustique, imaginez l'acoustique d'une cathédrale, et en plus l'orgue derrière qui faisait des grandes dissonances. C'était inoubliable, vraiment c'était très fort et très dingue.
Alors, autre chose... un peu dingue, mais peut-être dans un autre registre, c'est qu'on découvre dans votre livre Mes battements que vous aimez donner des noms aux choses, outre le doudou d'enfance, le lapin Bubu, alias Lapineau, quand il appartient à votre sœur, on fait la connaissance d'un synthétiseur prénommé Helmut, et que vous considérez comme un musicien, pas comme un simple instrument.
Oui.
Et il y a aussi la ciboulette.
Oui, c'est vrai.
Un instrument de musique.
C'est pas un prénom, ciboulette. Hein,
Ah, pardon. Mais,
enfin, je veux dire.
Mais Maxime Le Chouka.
Ah oui, mais ça, c'est un animal.
Ah oui, bah écoutez, bah alors je me suis emmêlé les pinceaux.
Bon,
alors, parlez de la ciboulette.
La ciboulette.
ou de Maxime.
Alors, je peux parler des deux, mais pas en même temps.
Bah,
je
n'ai
pas réussi à synthétiser les deux.
Est-ce que vous pouvez dessiner en même temps?
Ouais, sans problème. La ciboulette, c'est un instrument. On a baptisé ça avec ma fille ciboulette, parce qu'il y a des tiges qui ressemblent à des brins de ciboulette. Mais c'est un instrument, c'est une boîte en bois avec des micros dedans, qu'un gars qui s'appelle Archie a fabriqué. Il y a des ressorts dessus, ça fait du bruit, et tout ce bruit, on peut en faire de la musique.
Mais lui, il appelle ça un springophone.
Exactement. Le nom d'origine, c'est le springophone. Spring, ça veut dire ressort, ça veut dire plein de trucs en anglais, mais ça veut dire ressort. Donc springophone... Je vous laisse faire la traduction.
J'essaye de me retenir de faire une blague avec Bruce Springsteen, mais je ne vais pas réussir.
Ouais, non. Enfin, ceci dit, si vous voulez.
Non. Non, parlons plutôt de Maxime Le Chouka que vous avez nourri au Canigou.
D'accord. Maxime Le Chouka écoutait beaucoup Bruce Springsteen.
Oui.
Et, ouais, non, quand j'étais petit, mon père a récupéré une fois un chouka dans un nid en disant qu'il était tombé. Il n'est pas récupéré dans un nid, dans le grenier du château du village. Et il l'a ramené et on l'a sauvé, on l'a nourri au doigt en lui filant du canigou directement dans le gosier. Et on s'est habitué à ça, le chouka a grandi, on l'a appelé Maxime. Et il est devenu vraiment un membre de la famille, il nous suivait partout, on était tout le temps avec lui, jusqu'à l'été. À l'été, Maxime a décidé de partir. En fait, bizarrement, il a choisi le moment où on partait en vacances pour décider de partir. Et puis après, on n'a plus jamais revu Maxime. Sauf qu'à l'année suivante est apparu un nouveau Maxime. Et à chaque fois, miraculeusement, quand j'étais enfant, tous les printemps, apparaissait un Maxime à qui il arrivait exactement la même chose. C'est fou, c'est formidable, c'est Maxime qui nous arrive par miracle. J'ai fini quand même par comprendre, je crois, que mon père les arrachait à leur nid, quoi. Ouais, je pense que c'est un truc beaucoup plus sordide que...
Oh non.
Voilà. Mais comme quand on enterre les chats et qu'on dit « Oh, ton chat, il est parti ».
Non.
Ça arrive.
Non.
Gilbert Aumont, Jean-Louis Foulquier, c'est Pollen, toujours en direct du Square, 6 place de l'Opéra Louis Jouvet à Paris dans le 9e. Salut!
Albin de la Simone, on découvre votre enfance, votre adolescence dans votre livre illustré par vos soins et vous écoutiez Pollen de Jean-Louis Foulquier sur Inter, dont on entend le générique.
Ah ouais, là, ça, le fait d'entendre ça à cette heure-ci, ça va faire sursauter pas mal de gens, hein, je pense, positivement.
Ça vous émeut ?
C'était un rendez-vous dingue, c'était génial. Moi, j'écoutais ça quand mes parents avaient des dîners dans le salon. Ma chambre était jouxtée le salon. Je voyais les lumières, j'entendais les bruits, mais je comprenais rien. Et quand ils avaient du monde, ils s'occupaient pas de moi. Enfin, c'est normal, je veux dire, j'étais couché et moi, j'écoutais Pollen à la radio dans mon lit, vraiment, comme dans les clichés de gens qui racontent qu'ils écoutent la radio dans leur lit. Ben voilà, moi, j'écoutais ça. Higelin et tout.
Le temps passé, assis sur les mains, à regarder mon ombre, imaginer ma tombe, examiner les murs, compter les fissures, vérifier les serrures, assis sur les mains, au lieu de te dire que tu es belle.
Un extrait de votre album Albin de la Simone, Toi là-bas, qui va sortir dans quelques jours. C'est le morceau Pourquoi on pleure, avec la chanteuse belge Alice on the Roof. Qu'est-ce qui vous a décidé pour faire le choix des reprises, les vôtres et celles d'autres artistes?
Vous êtes vachement sérieuse d'un coup, c'est assez flippant. Tout à l'heure, vous essayez de faire une blague sur Bruce Springsteen et là, j'ai l'impression d'avoir affaire à un prof.
Vous avez dit la meilleure imitation de Bruce Springsteen, mais je vais pas la faire.
Ah bon?
Non.
Ok, alors pardon, vous disiez...
Comment vous avez choisi les morceaux qui figurent sur cet album ? Parce qu'il y a un inédit, des reprises de chanteurs que vous aimez, et aussi des reprises de vos propres chansons réorchestrées.
Chaque chanson a sa raison. Celle-ci, par exemple, Pourquoi on pleure, je l'avais enregistrée juste à la guitare. Elle était arrivée à la toute fin de la production de l'album, il y a 7 ans, 8 ans, d'un album donc passé, et j'ai eu envie de l'habiller. Et de la chanter en duo avec cette Alice on the Roof, que j'adore, dont je suis en train de... produire l'album en partie et j'adore sa voix, donc c'était une évidence pour moi. Il y a d'autres chansons que j'ai décidé de reprendre parce que j'aime plus du tout la version originale et que je ne pourrais pas vous la faire écouter, cette chanson que j'aime, parce que mon arrangement de l'époque ou ma façon de chanter est insupportable.
Pour vous ?
Oui.
Oui. Bon, il y a beaucoup d'amour sur cet album. Il y a notamment C'est bien moi, paroles et musique Alain Souchon pour Françoise Hardy en 82. C'est vous qui l'a chanté. On entend dessus Seul avec mes battements. J'imagine
exactement.
Que ça a donné le
ça
titre.
Ça vient de là.
Et surtout, là, c'est assez fort. C'est-à-dire que sans savoir de quelle reprise il s'agissait, j'ai reconnu la personne que vous avez reprise.
Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment tant que tournera le temps jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans, les amoureux en auront tout autant.
Albin de la Simone, vous avez très joliment repris la valse des Lilas pour Catherine Sauvage, composée en 55, paroles Eddy Marnay, compositeur Michel Legrand, Eddy Barclay. Et la mélancolie, évidemment. Et ça m'a fait penser à une anecdote, c'est que vous avez échappé au service militaire en vous prétendant mélancolique au sens psychiatrique du terme.
Oui, mais je ne l'ai pas raconté.
Non, mais je suis détective.
Vous avez d'autres sources.
Mais évidemment.
Ah, mais c'est ça. Depuis tout à l'heure,
Maxime Le Choucam, on a beaucoup dit.
Le Choucam, c'est ça.
Êtes-vous mélancolique?
Non, non.
Ah bon,
non,
sans
non.
hésitation.
Je ne pense pas. Non, non, mais j'aime la douce caresse de la mélancolie. Si je ne sais pas, j'ai l'impression de citer quelqu'un en disant ça.
Peut-être.
Mais, c'est un genre de bain chaleureux dans lequel il est difficile de sortir.
Quoi. Pour vous.
Ouais, et musicalement, la mélancolie, c'est quand même vachement plus riche et plus...
Ah oui, pour l'art, oui.
Ouais, voilà. Donc, je ne suis pas mélancolique. Je ne crois vraiment pas. Mais la mélancolie me plaît. C'est bizarre, non ?
Non.
Ça tient ?
Ouais. Bien sûr. Alors on va écouter, c'est le standard de ce soir puisqu'il est en playlist et vous ne le saviez pas, c'est un hasard, vous l'avez appris aujourd'hui.
Oui.
Le titre de votre album qui sort aujourd'hui puisque l'album sort dans quelques jours, mais ce titre-là sort aujourd'hui, Toi là-bas.
Le pain qui raye le trottoir. J'ai 16 ans de corbeau noir, cheveux vermeils et long foulard. Moi qui ne vois pas plus loin que moi, rien au-delà du bout de mes doigts. Moi qui n'entends que mes fourmillements, que le dedans de mes battements. Je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, je t'aime. Je ne connais que ton nom, mais je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas. N'approche pas où je meurs, je t'aime, j'en ai peur. Trois quarts. J'aime l'amour, la mort, le soir. Depuis mon lit, dans un mouchoir de poche, j'affabule ton corps, notre histoire. Moi qui n'ai lu que ma poésie, en deux temps maudits, je nous compose trois mouvements d'une symphonie, notre opéra, notre apothéose. Je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, je t'aime. Je ne connais que ton nom, mais je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, n'approche pas. N'approche pas de moi où je meurs. Ne traîne pas trop près de ma foudre. La force de mon souffle au cœur pourrait bien enflammer la poudre. Je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas, je t'aime. Je ne connais que ton nom, mais je t'aime, toi là-bas, je t'aime, toi là-bas. N'approche pas où je meurs, je t'aime. J'en ai peur, j'en ai peur de toi.
Toi toi là-bas » d'Albin de la Simone qui est face à moi dans la 20e heure sur France Inter. C'est l'inédit de votre album homonyme et voici tout de suite votre choix musical. Charlotte Sometimes, et j'ai lu que vous aviez beaucoup pleuré sur des amoureuses sur ce titre.
Ah ouais, ça c'est là on parlait de mélancolie, là c'est vraiment la bassine. Je l'entends, il chante, il pleure en chantant, il chante même un peu faux. C'est pour moi c'est vraiment la tristesse confortable.
Confortable.
Oui, il y a un côté on y va quoi. Allez, on plonge dans la mélancolie. Moi, c'est des sensations que j'avais à l'époque, en tout cas, que je retrouve quand je l'entends.
C'est vrai.
D'une tristesse agréable, encore une fois. Enfin, je sais pas comment dire.
Maintenant, oui, une mélancolie douce.
Ouais. J'ai plus trop ça.
C'est-à-dire qu'elle n'est plus douce ou vous n'avez plus de mélancolie ?
J'ai moins besoin, j'ai moins accès à... quand je l'entends cette chanson, ça me le refait, mais je ne fonctionne plus comme ça. J'ai beaucoup changé, je crois. Heureusement.
Alors justement, en parlant de changement, vos premiers albums étaient plus graves que les derniers. Enfin, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous notez un changement de votre être dans la vie et de vous en tant que chanteur ?
Oui. Oui, oui. Alors, je ne sais pas s'ils sont plus graves, mais ils sont plus irréguliers et plus extrêmes. Je me comprends de mieux en mieux. Je consacre ma vie à ça, à améliorer, à aller mieux, à mieux comprendre ma vie. C'est pour ça que j'ai pu aujourd'hui sortir un livre où je parle de mon père, où je parle de moi adolescent. Moi adolescent, je me suis détesté pendant très longtemps. C'est plus le cas. Donc, je peux maintenant en parler. C'était quoi la question ? Je me suis perdu.
Je ne sais pas parce que je vous suivais, mais c'était sur le changement de l'homme que vous êtes et du chanteur que vous êtes, de l'artiste.
Et en fait, le fait d'écrire des chansons est une forme d'introspection, une forme de recherche sur moi. Je me cherche en faisant ça. J'ai fait des versions, comme je vous disais, trop rock, trop qui ne m'allaient pas. Ça me permet de comprendre qui je suis et j'avance.
Perfectionner.
Donc aujourd'hui, voilà, si je reprends des chansons à moi d'il y a 20 ans. C'est aussi parce que mon regard sur moi a changé et que ma façon de me présenter a changé.
Je te salue la mort, j'espère que tu vas bien. Ce soir le ciel est noir, ma nuit est un chagrin. Pourquoi m'as-tu volé le plus beau des félins? Celui qui aimait tant dormir entre mes seins.
Je te salue Sophie. Je vais très bien, merci. Face à mon jugement, il vous faut rester fort. J'équilibre la vie en vous jetant des sorts. Dieu seul sait vraiment si j'ai raison, si j'ai tort.
Sophie Calle, Pierre Lapointe et vous-même sur le morceau Sophie, la vie, la mort, sur l'album Souris Calle de l'artiste Sophie Calle qui était venue faire une émission assez truculente ici. Et c'est un album hommage à son chat disparu. Quel fut le cahier des charges pour cette chanson Albin de la Simone ?
Écrire une chanson sur son chat disparu, en hommage, comme vous l'avez bien dit.
Vous pouvez faire ce que vous vouliez.
Ouais, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai dit que j'en étais bien incapable d'écrire sur son chat disparu, parce que ça m'en touchait une, comme on dit, sans faire bouger l'autre, que j'étais tout à fait... c'est pas un sujet qui m'inspire une chanson, voilà.
Ah, c'est pour ça que vous n'êtes pas mélancolique.
Plus. et Pierre Lapointe, mon grand ami québécois Pierre Lapointe, était, lui, par contre, très inspiré. Pierre a écrit la chanson entièrement. Moi, je l'ai jouée, arrangée, j'ai chanté un couplet, on s'est réparti les couplets. Mais j'ai un peu botté en touche parce que je ne suis pas capable d'écrire des chansons sur commande. J'ai jamais réussi et je m'en veux et je m'en plains.
Et pourtant, vous avez fait tant de collaborations avec des écrivains, des artistes. Je pense au pianiste Alexandre Tarot. Vous arrivez vraiment à passer de l'un à l'autre. Vous échangez même vos instruments pendant les concerts avec vos musiciens.
Ouais, mais j'aime toute forme de collaboration. Comme je vous le disais au début de l'émission, écrire une chanson, pour moi, c'est un truc. C'est vraiment presque... C'est pas sacré, mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout et qui me terrorise un peu. Voilà, c'est pas facile, c'est pas léger.
D'accord. Donc c'est là que se trouve la gravité. Ouais. Vous avez aussi composé en partie la bande originale du film Tirésia de Bertrand Bonello. Est-ce que vous aimez composer pour le cinéma ?
Oui, alors ça c'était il y a 25 ans. Hein.
Oui, mais j'ai une bonne mémoire.
Mais oui, je me souviens.
J'étais déjà sur le coup.
Mais je vous avais vu dans la salle.
Oui.
J'ai fait récemment la musique d'un dessin animé qui s'appelle La Vie de Château, qui est un dessin animé une série en fait de 6 épisodes. Magnifique, vraiment, qui est sur France Télévisions, sur Oku, qu'on peut trouver, qui est jeunesse, mais pas que, sur une petite fille qui a perdu ses parents dans les attentats et qui vit avec son oncle, qui est chef d'entretien du château de Versailles. C'est vraiment une très belle chose et j'ai adoré composer la musique de ce dessin animé qui m'a beaucoup plu. Ça m'arrive beaucoup de ne pas le faire aussi parce que le film ne m'inspire pas. Je marche vraiment au feeling.
Bah oui, mais là, j'imagine qu'un château qu'on ne possède pas... Et qu'on fréquente, ça a dû
vous
parler.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Françoise.
Bruno.
Françoise.
Bruno.
Françoise.
Bruno.
Françoise.
Bruno.
En ma vie monotone, au bain m'est apparu Lucifer en personne.
Le montage s'est déroulé sur une longue période, ça a duré 8 ans.
Albin de la Simone, vous êtes un touche-à-tout et vous avez écrit et créé des films fantômes, spectacles, expositions. De quoi s'agissait-il ?
Il s'agissait de 9 films que j'avais inventés, dont on jouait la musique avec des musiciens sur scène et 2 comédiens racontaient les films et on les faisait imaginer au public en n'essayant pas de les duper. Hein. On disait au public, on va vous raconter des films que vous connaissez pas, vous allez les imaginer grâce à ça. Et après, ils sortaient du spectacle et ils allaient dans une salle où il y avait une exposition où on voyait un film où là, on entend Laurent Lucas, par exemple, qui parle. Il y a un film où Karine Viard... en fait, on ne voyait jamais d'image des films. On voyait le casting dans lequel Karine Viard essaye d'avoir un rôle. On voyait les costumes, l'affiche japonaise. C'était tout un truc mytho, mais qui permettait au public d'imaginer quelque chose. Et quelquefois, l'imagination devient aussi forte que ce qu'on a vraiment vu. Voilà, ça jouait là-dessus.
Alors, en parlant d'imagination, vu que vous faites à peu près tous les arts, vous êtes aussi mannequin à perruque,
bon oh là là,
dans
oui.
une bande dessinée publiée au Seuil, oui, et qui est un roman photo de l'écrivaine ivoirienne Marguerite Aboué, qui est aussi l'auteur des bandes dessinées Aya de Yopougon, dessinée par Clément Oubrery, et ça s'appellera Les Amours de ma chérie. Et vous avez une perruque magnifique en couverture.
Oui. C'est ma grande fierté. C'est la première fois qu'on me contacte pour avoir un premier rôle en tant que comédien. Et c'est de la comédie inanimée, puisque donc c'est des photos, c'est un roman photo à l'ancienne. Et donc je me suis retrouvé à Abidjan et à Domolon, qui est un village à côté d'Abidjan, à jouer la comédie parce que je suis un clochard emmené par une jeune femme franco-ivoirienne on prétend que je suis son futur mari pour que sa famille lui foute la paix. Et il m'arrive des tas de mésaventures, je me fais kidnapper et tout ça. Et j'ai vécu des grandes choses.
Vous êtes amusé en le faisant ?
Beaucoup. Et je me suis retrouvé torse nu, ligoté à un cacaoyer dans un village, entouré des anciens du village, c'était fabuleux.
Il y a un titre sur votre album, il me reste quelques secondes pour l'aborder, qui s'appelle « J'aime lire ». Et donc j'ai envie de savoir ce que vous aimez lire, Albin de la Simone. Que lisez-vous en ce moment ?
Rien.
D'accord, parce que rien, ça ne prend pas 15 secondes. Alors
il y a 15 secondes.
Voilà, il y en a plus que 10.
Alors, je lis presque rien. J'aime Jean Echenoz, par
d'accord,
exemple.
D'accord, bah oui, qu'est-ce qu'il
voilà,
est rigolo.
Ça, d'accord.
Bah, bien sûr, il est venu aussi.
Ouais, j'ai vu qu'il est venu.
Quel délice.
J'adore son langage, j'adore sa langue, j'adore
Et bien, nous le saluons. Nous le saluons. Merci beaucoup, Albin de la Simone.
Bah, merci, Eva Bester.
Votre album, Toi là-bas, chez Tôt ou Tard, sortira le 7 mars. Votre livre illustré, Mes battements, paraîtra chez Actes Sud le 12. Votre tournée chantée et dessinée intitulée Albin de la Simone, solo, chanson, dessin, histoire se déplacera un peu partout en France ce printemps puis à l'automne. Vous exposerez vos dessins en juin en Picardie à Paris à l'automne et le roman photo Les Amours de ma chérie de Marguerite Aboué avec Isabella et vous-même paraîtra le 25 avril au Seuil. Isabella ? J'ai oublié un nom.
Isabella, je ne connais pas son nom de famille, pardon, je l'ai plus en tête.
Ouais. C'est une coquille sur ma feuille et donc je m'en sors en lançant une musique C'est le direct, comme ça vous voyez que nous sommes en direct. Et l'émission a été réalisée avec brio par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal, Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Céline Guéribi. À demain, 20h10.